Trainville PM. Faut que je te raconte. Voici Michel Barrette.
Vous avez dépensé combien, vous pensez, Christian, au total? Là?
Bon, moi, j'ai dépassé le million, puisque la fraude au gouvernement était de 600 000. Puis, quand ils sont venus perquisitionner chez moi, j'ai été incarcéré pour avoir fraudé. Et j'ai eu une sentence d'un an de prison. C'est là, d'ailleurs, que je me suis inscrit pour une thérapie à la maison Jean Lapointe.
L'enfer des loteries vidéo, des appareils de loterie vidéo, c'est un témoignage que vous avez entendu dans la première heure, Christian A, là, qui c'est épouvantable, Michel. C'est épouvantable ce qu'il nous a raconté. Puis toi, tu veux nous parler de ça aujourd'hui.
Bien, je veux parler de notre propre rapport qu'on a avec les jeux de hasard. À savoir qu'on a parlé aujourd'hui, bien sûr, de oui ou non, pour si on était d'accord de conserver les appareils de vidéo poker, qu'on appelle. Mm-hmm. Et bien sûr, on s'aperçoit que c'est une minorité qui dépense...
Au-dessus de 80%. Au-dessus de 80% de l'argent là, qui est mis dans des machines de vidéo poker, là, c'est à peu près 15% des joueurs. Là.
Quand on n'a pas, comme toi et moi, quand on n'a pas... Je vais appeler ça une maladie.
C'est une maladie.
Une addiction, oui, au jeu. Moi, la question que je voulais qu'on se pose aujourd'hui et poser à nos auditeurs, c'est quoi votre rapport avec les jeux de hasard, avec la loterie, que ce soit le casino, que ce soit les achats de billets de loterie. Comme toi, est-ce que ça t'arrive d'acheter des billets de loterie?
Oui, je te dirais 5-6 fois par année. Je vais, mettons, je vais me présenter là, dans un dépanneur, j'achète mes journaux. Ils vont m'offrir un billet.
L'automax.
Ouais. Je te dirais 4 fois sur 5, peut-être même plus, je vais dire non. Mais à un moment donné, je me dis, là, je vais en prendre un. Puis là, je prends la totale. Là. Tu sais, je me rappelle encore de la publicité. Non, merci. Tu sais, comprends, j'ai pas le goût
de
faire prendre.
Oui. Sophie Préjean, là.
Sophie Lorrain, voilà. Sophie. Alors, bref, je leur dis, OK, tant qu'en prendre la totale, là, puis bon. Puis je gagne évidemment jamais, là. Fait que c'est pas pour rien que ça me prend un bout avant d'en reprendre, parce que, franchement, je peux pas dire que j'ai été bien chanceux dans ces jeux-là, mais je vais te dire, je limiterai pas la question, Michel, je la limiterai peut-être pas à ça, parce que, moi, je pourrais te demander, es-tu joueur, toi, là, nonobstant là, la loterie, bon, les casinos, est-ce que tu es un gars qui joue dans la vie? Là? Est-ce que, par exemple, moi, je vais te le dire, là, moi, je suis un joueur de 500. J'aime jouer aux cartes, je suis un joueur de 500. J'adore. Okay. Alors, c'est du hasard. Il y a de la stratégie à travers ça. Tu sais, si tu as une bonne main, tu as une bonne main.
Mais, OK, mais en même temps, tu risques pas de perdre ta chemise.
Ah non, je joue pas à l'argent. Non, mais c'est ça. Jouez-vous à l'argent?
Moi, je joue pas l'argent parce que, exemple, tu me donnes l'exemple de la loterie. Moi, je suis obligé de t'avouer que je suis influencé par les gros montants. Comme là, mettons, quand ça monte à 60 millions, on parle d'augmenter à 70 millions, là, je vais avoir tendance à dépenser un 20$. Tiens, un tirage à 70 millions. Ou encore, je me souviens, il y a quelques années, aux États-Unis, il y avait eu un tirage de Powerball en Floride et ça donnait en argent canadien comme 2 milliards. Mais là, j'ai dépensé 100$. J'ai fait vraiment 2 milliards. Je trouvais ça tellement absurde que mon geste a été aussi absurde que le montant.
J'ai mais sérieux, sérieux, Michel, là, si tu gagnes un montant de même, là, je te garantis que tu es plus malheureux après qu'avant.
Ben, écoute, c'est drôle.
C'est sûr. Tu ne peux pas être pris avec un gros montant de même puis pas être malheureux. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas avoir à ce taux tout le monde qui va être après toi. Puis si tu n'oses pas lui donner un petit bout, ils vont te traiter de cheap et de tout.
Tu n'as pas besoin de gagner 2 milliards pour avoir des appels de gens. Si les gens sentent que tu as un peu de sous, les gens t'appellent, les gens sont dans le trouble, ils veulent de l'argent. Mais pour ne pas déraper du sujet, je te dirais que c'est drôle que tu parles de ça parce que dans mon spectacle, je raconte qu'est-ce que c'est que de gagner 2 milliards comme si je l'avais gagné. Et pour vous donner une idée, c'est quoi 2 milliards? Là? Si tu as 2 milliards dans ton compte, j'ai fait le calcul, je ne l'invente pas, tu peux dépenser, on ne parle même pas d'intérêt, là, juste 2 milliards, mettons, 2 milliards, tu peux dépenser 1 million de dollars par jour pendant 5 ans et demi. À tous les jours, 1 million de dollars pendant 5 ans et demi pour réussir. Et dans mon show, je dis, 1 milliard le lundi, 1 million le lundi, 1 million le mardi, 1 million le mardi. Dois-tu être éclairé de l'eau de leur amour à tabarouette? Mais te dire que je ne suis pas un joueur, j'aime beaucoup Vegas comme point de chute. C'est-à-dire que souvent, je vais prendre un vol sur Las Vegas, je vais coucher là un soir, je vais aller voir un spectacle, le lendemain, je prends la route pour aller ailleurs. Mais même si je suis à Vegas, je ne suis pas un joueur, je ne suis pas tenté par le jeu, mais en même temps, je suis chanceux. Je me souviens de faire un voyage d'arriver au Venetian. La première machine à droite, je la regarde, mais 2 piastres là-dedans, gagne 1 000 $. Puis là, je continue ma semaine. Puis mon meilleur chum était avec moi, puis il n'en revenait pas. Il dit, maudit que je suis chanceux. Et à la fin de la semaine, on passe devant la même machine. J'arrête. Il dit, tu ne vas pas me niaiser. Je remets 2 $ et je gagne combien? Un autre 1000 $.
Ben voyons.
Oui, je suis chanceux, mais je ne suis pas un joueur. Même si je gagne, ça ne me donne pas le goût de m'asseoir là. Je vais ramasser mon ticket, m'en voir à la caisse. Alors, je suis un chanceux, mais je n'ai pas. Ma mère m'a déjà avoué. Elle dit, Michel, moi, il faut que je fasse attention. Elle dit, je vais dans Charlevoix, là, au manoir. Elle dit,
oui.
Elle dit, il faut que je me fixe. Elle dit, j'amène juste l'argent que je veux dépenser, puis je laisse ma carte de guichet automatique parce qu'elle dit, je serais donc tenté d'aller sortir un autre petit 50 puis un autre petit 60.
Alors, qu'est-ce que tu dirais si on demandait aux auditeurs, comment réussissez-vous à contrôler votre appétit pour le jeu? Tu sais, mettons la tentation. Si vous en avez un, là, comment est-ce que vous réussissez à le contrôler? Ça, je pense que ça pourrait être intéressant.
Oui.
Qu'est-ce que tu en penses? Votre rapport au jeu, puis comment? Puis est-ce que ça a déjà dérapé? Puis comment vous avez réussi à le contrôler? Mettons l'accent un peu plus sur le positif pour ceux qui ont réussi à le contrôler. Oui. Vous savez que vous avez un problème. Vous avez réussi à l'arnacher, là. Tu sais, vous avez réussi. Bon.
Sais-tu qu'est-ce qui est vicieux, Bernard? Un jour, je suis encore une fois à Las Vegas avec deux de mes enfants qui ont à ce moment-là 10 et 12 ans. Et là, ils veulent. Bon, les enfants n'ont pas le droit. Il y a comme une limite sur le tapis, là. Si tu dépasses ça, la sécurité vient de voir, dit non, les enfants ne peuvent pas. Mais ils voient quand même les machines. Tu sais, ils sont dans le corridor, ils voient les machines. Alors, j'avais expliqué à mes enfants que ça, c'était des poubelles qui faisaient du bruit puis de la lumière. Ils ont dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, des poubelles. Je dis, regarde, on met de l'argent là-dedans, ça fait bling, 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 plein de lumière, puis on perd notre argent. Fait que j'ai dit, moi, vous montrer. Fait que je m'en vais, eux autres, ils restent là, dépasser la limite. Je mets de l'argent dans la machine, je gagne 300$. Fait que là, c'est un mauvais exemple.
Oui, l'argent gagné facilement. Là. Ça, c'est la pire affaire. Là. Ouais. La pire affaire. Alors, on a des appels, Michel. C'est Maxime. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, Bernard. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Oui.
Oui, écoutez, moi, les machines, là, moi, c'est les machines vidéo poker, là, ça a été le pire fléau de ma vie. Il y a quelque chose de bizarre avec moi, c'est que quand je prends pas un coup ou je prends deux bières minimum, il n'y a pas de problème. Quand ça dépasse ça, je me retrouve dans un bar, les lumières flashent, ça m'appelle, et là, je vire une autre personne. Puis je le sais, je suis conscient de ça, donc je ne vais plus dans un bar, mais j'ai perdu des sommes faramineuses. Puis on dirait que maintenant, c'est encore pire. Les machines, ils les mettent attrayantes, des petits lasers, ça flash. J'ai l'impression que la machine m'appelait carrément. Moi, j'ai perdu des milliers et des milliers de dollars là-dedans.
Et vous l'avez réglé comment?
À un moment donné, je me suis dit, le problème, c'est l'alcool et la machine. Je vais plus dans le bar, parce que quand je vais dans un bar, je bois et je joue à une machine. Donc, j'ai tout coupé. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais remis un sou dans les machines, mais je trouve ça hypocrite un peu du gouvernement. On dirait le gouvernement a tendance à materniser un paquet de sujets dans la société de tous les jours, mais ça leur appartient. On met ça dans les bras où est-ce que le monde devient en état des fois un peu plus fragile, et c'est là que ça joue. Puis je trouve que c'est... Maintenant, je regarde ça, c'est pathétique. Tu vois des gens, des fois d'un certain âge, qui jouent leur fonds de retraite, des gens seuls. Puis je trouve ça, il est passé, il y a SOS jeu qu'on dirait que le gouvernement a inventé pour se donner bonne conscience, mais je trouve ça malsain.
Je vais vous dire, merci Maxime pour l'appel. Je vais te dire, Michel, je suis assez d'accord avec Maxime, j'ai évolué là-dessus. Il y a une part d'hypocrisie. Parce que on le sait qu'il y a un problème, mais c'est une société d'État qui, par définition, veut faire de l'argent. Et en fait beaucoup. Et c'est à cette société d'État qu'on confie par ailleurs la gestion de certains programmes pour gérer le jeu pathologique. Il y a quelque chose d'hypocrite là-dedans.
Oui, comme monsieur disait, pour se donner bonne conscience, bien, on fait des petits gestes, mais les machines restent là, le problème reste là pareil, puis l'argent entre, puis sont fait compter. Là, ils vont vous dire, oui, mais l'argent entre, puis il y a quand même... Elle sert à des bonnes causes et tout et tout. Mais j'ai bien de la misère, moi, à pénaliser à gauche pour donner à droite. Tu sais, je veux dire, ce monsieur-là qui nous explique s'il prend un verre, la machine d'appel, il y a un problème.
Ben oui.
Peut-être qu'on devrait s'attaquer au problème plutôt que d'aller prendre l'argent pour s'attaquer à d'autres problèmes.
André, qui nous appelle. Bonjour, André.
Mais bonjour. Moi, je vais dire comme Patrick Huard, il disait dans Taxi 22, là, c'est à moi cet argent-là, faut que ça me revienne.
Ah, c'est bon.
En parlant de la machine, là.
Oui, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça.
Elle va m'ordonner mon argent.
Non, mais je veux dire, il faut que ça me revienne sous forme de taxes, disons. Ça revient par le gouvernement. Si les gens ne jouent pas à ça, comment je pourrais dire? Plein de monde chiale après le gouvernement, mais c'est pas juste au gouvernement la responsabilité, c'est à toi de faire attention à ton argent.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, André. Ouais, c'est... Mais la question est de savoir, est-ce que le gouvernement a une responsabilité de, dans le fond, de ne pas te soumettre à cette tentation-là, c'est-à-dire de la retirer, cette tentation-là? Est-ce qu'on est rendu là? Vous, êtes-vous d'accord pour qu'on les retire ou vous pensez qu'on devrait les garder, les machines de vidéo-poker?
Tant qu'à ça, moi, je leur ai dit qu'on devrait les garder. Je veux dire, c'est à nous autres d'être adultes et d'être responsables. Puis tant qu'à ça, ben pourquoi qu'on ne retire pas l'alcool, on ne retire pas plein d'affaires aussi? Là, je veux dire, tant, si on part ce côté-là, on va tout enlever. Là.
Très bien. Merci, André, pour l'appel. Denis? Bonjour, Denis.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, moi, c'est ça. Ce qui m'a motivé, c'est que je jouais, comme tout le monde, pour s'amuser là, à des petites games de cartes ben ordinaires, là, puis des choses comme ça. Puis, à un moment donné, j'ai eu un ami de proche qui est arrivé chez nous, puis il m'a dit, si tu ne me prêtes pas 5 000, Denis, je m'accroche. Ça faisait la deuxième fois. J'en avais déjà prêté une fois. Il me l'avait remis. Mais la deuxième fois, 5 000, je me disais, je suis pas capable. Ils m'ont aidé vraiment. Ils ont appelé, puis ils m'ont rentré à l'hôpital. T'as besoin d'aide.
Mais oui.
Il me dit oui. Il me dit oui demain. Le lendemain, ils l'ont trouvé accroché.
Ah!
Ah non.
J'ai trop pensé que c'était de ma faute, mais.
Non, surtout pas, monsieur. Non, au contraire, vous avez posé le geste qu'il fallait.
Vous avez voulu l'aider. Vous avez voulu l'aider, Denis.
Absolument.
Je m'en appelais, puis en même temps, bon, félicitez votre émission, parce que je suis une barbotte des îles, moi aussi.
Ah, ça, les barbottes, c'est rare, mais ça vaut cher.
Merci, monsieur.
Merci, Denis.
Ça ramène justement à l'importance du problème. Mmh. Parce que oui, il y a des gens qui ont perdu des sommes faramineuses, mais il y a des gens aussi qui sont allés jusqu'à s'enlever la vie, parce qu'à un moment donné, tu tournes à vide, puis tu t'enfonces, puis à un moment donné, il y en a assez, là, ça. Justement, ça n'a pas de bon sens.
OK, on va s'arrêter. On a fait notre part pour faire avancer un petit peu la discussion, mais je te le dis, moi, je pense qu'on s'en va. Ça fait des années que le Québec discute puis débat de cet enjeu-là, là, puis je pense qu'on s'en va tranquillement, pas vite, vers un entonnoir où on va devoir prendre une décision, là, parce que ça fait des années qu'on en parle, puis j'ai l'impression qu'on tourne en rond, là, comme disait...
Arrêtez de regarder la colonne des chiffres, là.
Il faut regarder la colonne des pertes aussi, là, pour on se rend compte qu'elles sont importantes. OK, après la pause, si tu veux nous parler le phénomène des héritages?
Mais c'est parce que là, on voit le cas, bien sûr, depuis le décès de John Hallyday, là, les gens de sa famille là, se chicanent l'héritage, première famille, deuxième famille, les enfants de la première noce et tout. Alors, avez-vous fait votre testament? Parce que ça, c'est des fois, les gens, c'est quelque chose qu'on traîne, parce qu'on... Les choses changent dans la vie, puis on se dit, il faudrait bien que j'en fasse mon testament parce qu'on est rendu plus loin, puis on a un nouvel enfant, puis là, s'il m'arrivait quelque chose, écoute, ça se retrouverait.
Mais c'est surtout que quand tu ne l'as pas fait, tu peux être dans de sérieux draps, et vous pourrez nous appeler pour nous, peut-être, tirer publiquement, tiens, les conclusions de votre expérience après la pause.
Drainville PM. Faut que je te raconte. Voici Michel Barrette.
Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Oui, gris, c'est gris.
Alors, c'est Johnny Hallyday, Noir, c'est noir. Tu nous as résumé ça avant d'aller à la pause. Là, conflit entre sa femme, Laetitia, et les deux enfants naturels de Johnny Hallyday qui considèrent qu'ils n'ont pas eu leur juste part de l'héritage et qui contestent donc devant les tribunaux. On n'est pas là pour parler du cas de Johnny. On sert du cas de Johnny pour parler de la question des héritages.
Héritage des testaments. Est-ce que ton testament est à jour, toi, Bernard?
Honnêtement, non.
Et tu sais que c'est
important. Il faut. Ben oui, il faut. Oui. Je le sais.
C'est genre de choses qu'on remet.
Je suis pas fier de ça, là, mais je te donne une vraie réponse. Là.
On ne parle pas de ça tous les jours. T'sais, d'abord, on parlait de notre mort, c'est pas notre sujet numéro un.
Non.
Puis vient avec ça bien le testament, l'héritage. Et souvent, on a entendu des histoires d'horreur de familles qui se sont déchirées frères, sœurs, cousins, cousines, mère, père, bon, parce que le père ou la mère n'avait pas fait de testament ou n'avait pas mis le testament à jour. Et là, bon, c'est la première famille qui reçoit, la plus récente famille ne reçoit rien.
Oui, puis je ne suis pas un expert en la matière, là, Michel, mais il y a aussi des dispositions qui font en sorte que, dans certaines circonstances, si tu n'as pas de testament, c'est le gouvernement qui ramasse.
En plus. Alors, pour éviter tous ces problèmes-là, toutes ces chicanes-là, il faut...
Mais toi, es-tu à jour? Tu es à jour, toi?
Ben, je suis à jour parce que ma femme est à jour, parce que je ne le serais pas. Puis je me souviens que pendant des mois, elle m'a dit, mon amour, on doit s'asseoir et reviser parce que, regarde, t'as l'affaire, Martin, où est-ce qu'il est rendu. Tu sais, notre environnement change, l'environnement familial. Oups, il y a un enfant qui arrive. Il faut se réajuster.
C'est parce que ça te confronte à la mort. C'est ça qui c'est ça qu'on n'aime pas. Parce que tu vois, moi, j'en ai un qui n'est pas à jour. J'en ai un. Tu sais, par exemple, on a prévu, on le fait quand les enfants étaient tout jeunes, tout bébés. On le fait à ce moment-là parce qu'on s'est dit, si jamais il nous arrive de quoi comme parents, on a décidé qui, dans notre entourage proche, là, adopterait les enfants ou en tout cas s'occuperait des enfants. Tu comprends?
Bon, mais quand ils sont rendus à 33, ouais. 33 ans, comme mon plus vieux, ben, ça change la donne. Fait là, tu es obligé de te dire, oh, t'as un petit peu, c'est plus... Les sous qu'on laisse, en plus, le testament, il y a l'importance. Bon, si moi, je décède seul, c'est une chose. Si je décède en même temps que ma femme, donc on est tous les deux, les enfants, c'est une autre chose. Alors, il faut vraiment s'asseoir, je pense, devant un notaire et en jaser.
Alors, posons-là la question, Michel. Parmi vous, là, est-ce que vous avez vécu une mauvaise expérience ou peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez qui a vécu une mauvaise expérience parce que le testament soit n'existait pas, soit n'était pas à jour, puis vous souhaitez nous en parler, 790-9850, 98985, Drainville le commercial 985FM.ca. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le détail. Vous pouvez, à un moment donné, dire, mettons, c'est votre famille, vous pouvez dire, c'est la famille de votre ami. Là. On n'ira pas faire un background check, là, tu sais. Parce que c'est des affaires extrêmement délicates, oui. Là. Souvent, c'est des chicanes de famille, puis écoute, Michel, là, ça peut être épouvantable. Là. Moi, j'ai eu connaissance de cas des familles qui allaient bien. Où ils étaient relativement unis, puis il y avait, tu sais, ils se voyaient aux fêtes, puis tu sais, ils s'aimaient. Puis écoute, quand l'argent est rentré là-dedans à la suite du décès, là, écoute, ça a été le bordel, mon vieux. La famille a explosé. Et t'as du monde qui ont développé des conflits alors qu'il n'y en avait pas, puis qui sont même pas capables de se parler. Stéphanie qui nous appelle. Bonjour, Stéphanie.
Bonjour. Écoutez, nous, quand mon beau-père est décédé, il y a 3 ans, ça l'a détruit notre famille. Mon mari, il était liquidateur testamentaire. Et puis, son 3 frères, c'était à part égale. Et puis, il y en a un qui a décidé qu'il voulait le magot. Parce que mon beau-père, il avait quand même un peu d'argent. Mm-hmm. Et puis là, il nous a traînés à la cour. Ça a duré 3 ans. Ça nous a coûté 45 000 d'avocats pour nous faire dire au bout de 3 ans que mon beau-père était lucide, allait mourir, qu'il n'avait pas été manipulé à rien. On a gagné. Mais ma belle-mère, qui est la moraine de mon garçon, a cessé tout contact. Mon beau-frère aussi. Alors, mon mari se ramasse plus de mère, plus de père, plus de frère. Il en reste juste un. Et puis, ça fait 3 ans, puis ça lâche pas encore.
C'est pathétique.
Tout
c'est
ça
pathétique.
Pour de l'argent.
Oui, merci
tout
Stéphanie.
Tout ça pour de l'argent, oui. Yes. J'ai juste un mot à dire. L'argent, là, c'est rien à comparer d'une famille. Mon garçon, il a grandi sans sa grand-mère, sans sa marraine. Aujourd'hui, il a 15 ans, puis il en souffre énormément. Puis mon mari aussi en souffre énormément. Fait qu'à tout le monde, l'argent, c'est rien. La famille, là, c'est de l'or.
Oui.
Merci, et Stéphanie.
Merci, Madame Stéphanie. Ce que je retiens aussi, c'est qu'on parlait du fait, avez-vous fait votre testament ou pas, mais même lorsqu'il y en a un, il y a parfois des gens qui vont, qui ne sont pas d'accord avec la décision de celui qui... Tu vas dire, comment c'est qu'il a laissé de l'argent à lui, mais pas à moi, puis il a laissé plus à elle plutôt qu'à l'autre? Puis l'exécuteur testamentaire aussi, parfois, il est jugé comme si c'était lui qui avait pris la décision, là, qu'il n'a fait qu'exécuter les volontés du défunt ou de la défunte. Alors, c'est bordel.
Écoute bien ça, Michel. La belle-mère de Stéphanie qui vient de nous appeler, elle s'appelle Francine. Puis là, c'est elle qui nous appelle. Bonjour, Francine.
Ouais. Bonjour, monsieur.
Bon. Qu'est-ce que vous allez nous dire, là, vous, là?
Moi, je vais vous dire... On ne sait jamais qu'est-ce que c'est qu'il y a en dessous de la couverte, hein? Mais je vais vous dire une affaire. Dans le fond, là, tout ce qui est arrivé, là, c'est que les enfants, j'avais 3 garçons, et puis les garçons, moi, au départ, mon mari, il voulait pas de faire de,
De chicane.
De
testament?
De testament. Il a toujours dit, nous autres, on avait une maison. Il y avait une maison à Saint-Côme, un autre à Saint-Ligory, puis il y en avait un autre de mes garçons qui était à loyer. Fait que ça a toujours été dit comme ça avec mon conjoint. J'en ai parlé plusieurs fois. Ils voulaient pas en faire de testament. Puis ils disent, ils savent tout qu'est-ce que c'est que je veux. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que un de mes enfants, il est allé avec mon mari pour aller faire un testament.
Oui.
Pourquoi il est allé avec lui? Tout ce que je comprends, moi, c'est qu'il l'a comme forcé. Lui, il était à l'argent. Ce que j'ai compris après, moi, là, pour moi, j'en voulais pas cet argent-là. C'est qu'est-ce que je devais avoir comme normal, là?
Mais Francine, oui? Avec le recul, là, avec tout ce qui est arrivé, là, êtes-vous d'accord, oui, pour dire que, dans le fond, ça aurait été mieux qu'il y ait un testament qui soit fait en bonne et due forme, pas sous la pression d'un des trois gars, mais qui se soit rendu peut-être avec vous, voir un notaire qui vous aurait conseillé puis qui aurait fait en sorte que le document aurait été le plus équitable possible pour tout le monde?
Oui, et puis je vais vous dire une chose, c'est que si ça aurait été clair, si ça aurait été pas en tout hypocrite, mon garçon me l'a dit, ben moi, j'ai réussi à vouloir que mon mari y aille faire un testament. Bon. Et on voyait l'ensemble. Non, moi, j'ai rien su de ça. Il a tout fait en dessous. Puis même quand il est allé pour un salon funéraire, je le savais pas.
Mais Francine, en terminant, là, les petits-enfants qui ont le goût de vous voir, vous pensez pas que ça pourrait, oui, s'arranger, là? Il me semble qu'on...
Bon, ben, franchement, je suis allée une fois, bon, chez eux, puis j'ai eu peur de leur chien. Puis j'y ai pas retourné. Ensuite, bon, je l'ai emmené une fois au théâtre, là, au cinéma, le petit garçon qui avait 10 ou 11 ans dans le temps.
Oui.
Et puis... là, quand on est revenu, celle-là qui vient de vous appeler, là, Stéphanie, là, elle a dit, « Oh, mon garçon, il a eu peur, tu l'as laissé tout seul. » Puis, voyons, c'est quoi cette affaire-là? J'ai dit, je voulais l'emmener avec moi, aller chercher du popcorn. Il a dit, « Non, grand-maman, je vais t'attendre. »
Bon.
Ça fait un char. Depuis ce temps-là, je ne l'ai plus revu.
Francine, essayez d'arranger ça, OK? Parce que la famille, c'est tout ce qui reste à la fin, là. Merci pour l'appel. Tu vois,
Bernard, on a un exemple.
Ben oui.
Un exemple,
ben
parfait.
Oui. Ben oui.
Puis comme dans tous les conflits, c'est de ma faute, c'est de ta faute. Là, je suis pas en train de juger qui que ce soit, là. Mais comme tu l'as très bien dit, à la base, si ça avait été clair, et équitable, devant notaire, peut-être, ben, que, oui, cette famille-là... Ben,
exact, serait pas en train de se déchirer. Tu vois, en conclusion, Jonathan qui nous écrit, il dit, « Je peux vous confirmer que même avec un testament, l'argent ruine une famille. Imaginez sans testament.
»
Ben, c'est ça pareil. C'est ça pareil.
Mais, oui. Mais c'est triste parce on l'a dit. C'est triste de savoir, je ne sais pas qu'est-ce que l'argent produit chez tout le monde, chez beaucoup de monde. C'est comme s'il devenait fou, là, puis d'un coup, tu n'as plus ni frère, ni sœur, c'est moi qui vais avoir le magot, puis vous autres, même si je ne vous parlerai plus jamais de ma vie, l'important, c'est que le cash soit dans mes poches.
Oui, l'argent. On en reparlera, mon Michel. Je te souhaite une très belle journée. On s'arrête. Au retour, on va parler du marché immobilier de la grande région de Montréal. Est-ce que c'est encore possible pour des jeunes acheteurs, des premiers acheteurs, d'acheter, pas juste sur l'île, dans la région de Montréal? Est-ce qu'il y a encore des coins où on peut acheter, une jeune famille, là, mettons, qui veut se partir et qui n'a pas le goût de payer un loyer, qui a le goût d'investir dans l'avenir? Est-ce que c'est encore possible de s'acheter une maison?